à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de ce point, actualité dans le sud du Liban, l'armée israélienne a frappé cet après-midi le camp de réfugiés palestiniens de Ain el-Helouet. En Égypte, au moins 18 personnes sont mortes hier dans une collision entre un minibus et un poids lourd. Et enfin en France, 13 000 foyers restent privés d'électricité. L'ouest du pays se prépare à affronter pendant encore plusieurs jours des crues exceptionnelles. Et on débute ce rendez-vous d'information par l'actualité au Proche-Orient. D'abord, le Hamas a annoncé que toute discussion sur l'avenir de Gaza devait d'abord passer par l'arrêt de l'offensive israélienne après une première réunion du Conseil de paix dirigée par Donald Trump. De son côté, Israël pose comme condition le désarmement du Hamas. Dans le sud du Liban, l'armée israélienne a frappé cet après-midi un camp palestinien, le camp de Ain el-Helouet. Israël affirme avoir visé un centre de commandement du Hamas palestinien. En Égypte maintenant, au moins 18 personnes sont mortes ce jeudi dans une collision entre un minibus qui transportait des ouvriers et un poids lourd dans le nord-est du pays, selon des médias locaux. Dans un tout autre volet, la Fédération sénégalaise de football a dénoncé un jugement d'une sévérité incompréhensible et disproportionnée après la condamnation par la justice marocaine de 18 supporters sénégalais détenus au Maroc depuis la finale de la CAN mi-janvier, des peines de 3 mois à 1 an de prison. En France, 13 000 foyers restent privés d'électricité. L'ouest du pays se prépare à affronter pendant encore plusieurs jours des crues exceptionnelles avec une vigilance toujours maximale à Angers et à Saintes, ville en partie inondée, et un léger mieux en Gironde, dans le Lot-et-Garonne. Et ce samedi à Lyon aura lieu une marche en hommage au militant nationaliste Quentin Derenc, battu à mort. Elle est autorisée mais sera encadrée par un dispositif policier renforcé à haut niveau, selon la préfecture du Rhône. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et place maintenant au dossier du jour. Premier dossier à Washington. Donald Trump a lancé ce jeudi la première réunion de son conseil de paix pour discuter de la situation à Gaza. Il se veut aussi une plateforme destinée à résoudre les conflits mondiaux et elle inquiète certains observateurs qui craignent que les organisations internationales traditionnelles soient marginalisées. Alain Jourdan, le secrétaire général de l'Observatoire géostratégique de Genève, y voit, lui, une organisation à la portée plus que limitée. On l'écoute.
C'est un pilonnage en règle de tout le système multilatéral qui est opéré depuis le départ par l'administration Trump. Il faut bien comprendre que tout ce que peut faire Donald Trump aujourd'hui, c'est en dehors du droit international, et que tôt ou tard va se poser des questions de légitimité, de conformité aux règles internationales. Là, on est dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a une démolition en règle de l'existant. On essaye de bâtir de nouvelles choses, des propositions. Mais quelle valeur vont avoir ces décisions qui ne seront pas entérinées par une plateforme qui est reconnue comme telle au niveau international, ni par des traités, ni par des conventions où se retrouve l'ensemble des pays. Donc l'ONU va très mal, le système va très mal. Il y a des plateformes qui essaient, mais pour le moment, il y a rien de solide. Tout ça est très fragile.
Mais alors, quel sera le rôle de l'ONU vis-à-vis du Conseil de la paix de Donald Trump, puisque le président américain a quand même annoncé que le Conseil de la paix superviserait l'ONU et veillerait à son bon fonctionnement? Est-ce qu'on n'assiste pas à une mise sous tutelle de l'ONU?
Non mais ça c'est du Donald Trump dans le texte. Non, il va pas y avoir une mise sous tutelle de l'ONU, mais il y a une ONU aujourd'hui qui est moribonde. Il y a un système qui est complètement défait, qu'il va falloir reconstruire, et c'est pas cet organe qui va chapeauter l'ONU. Il va falloir trouver un nouvel espace multilatéral, certainement revoir les règles, et tout ça pourra se faire que dans la concertation. Mais on n'en est encore pas là, on est dans cette phase, on est dans le marécage là, hein, où tout est en train de bouger, chacun essaye de trouver sa place, mais c'est pas Donald Trump qui dictera comment ça se passera demain, parce que il n'est pas le maître du monde. Il y a d'autres puissances, il y a d'autres pays, il y a des puissances émergentes, et il y a d'autres États qui vont faire valoir leurs droits aussi. Il y a des règles, il y a un droit international, même si pour le moment Donald Trump s'assoit dessus, tôt ou tard elles reviendront dans la figure de tout le monde.
Vous venez d'écouter Alain Jourdan, le secrétaire général de l'Observatoire géostratégique de Genève, au micro de Marc-Aurel Barrez. Second dossier en France, à l'approche des élections municipales les 15 et 22 mars, le climat politique semble se tendre dans le pays. Réunions publiques perturbées, permanence visée, tensions sur le terrain. Et ce drame, le meurtre du militant nationaliste Quentin Derenque le 14 février dernier à Lyon. Un mouvement est au cœur de la tourmente. Il s'agit de la France insoumise et en particulier un député, Raphaël Arnauf. Les enquêteurs suspectent plusieurs membres de la Jeune Garde, une organisation antifasciste qu'il a fondée et dissous en 2025, d'être à l'origine de ce drame. Un drame qui a profondément touché l'opinion, comme le souligne Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut de sondage IFOP.
C'est une affaire qui a profondément ému les Français. Ils sont plutôt sur la dimension émotionnelle. Hein. Voir un jeune homme de 23 ans perdre la vie pour ses idées dans le cadre d'une bagarre violente, ça ne passe pas chez les Français, comme tout acte d'insécurité et de délinquance. Hein. N'oublions pas que l'insécurité est aujourd'hui le premier déterminant du vote aux élections municipales. Ça n'était pas arrivé dans une élection depuis la fameuse élection du 21 avril 2002, l'élection présidentielle. C'est vrai qu'il y a maintenant une sorte de lecture politique, une mise en accusation de la France insoumise de par sa proximité avec la Jeune Garde, le fait que deux assistants parlementaires de Raphaël Arnauf aient été mis en garde à vue, tout ça crée un sentiment étrange. Alors, dire que ça va impacter toutes les campagnes municipales, je n'irai pas jusque-là, c'est plutôt dans des grandes villes. On est aussi dans une élection où la France insoumise part pour la première fois, je dirais, presque fièrement au combat, quand ce parti avait enjambé le scrutin en 2020. Est-ce qu'il y aura des impacts? Il est trop tôt pour le dire, mais c'est vrai que plus que jamais, ça enferme la France insoumise dans une posture isolée, de citadelle assiégée, avec, on le sait, une image très négative auprès des Français, même si ce parti a un socle de soutien non négligeable.
Venez d'écouter Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut de sondage IFOP, au micro de François-Xavier de Calonne. C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.